Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis du Matin des Musiciens. Arcangelo Corelli est mort il y a 300 ans, lui qui fut le premier parangon d'une perfection toute apollinienne. Nous lui rendons hommage sur France Musique, non pas depuis notre habituel studio 118, mais depuis Anvers, en Belgique, où nous nous trouvons avec l'ensemble Les Muffati, dans un lieu chargé d'une histoire toute particulière. Hommage à Corelli et à ceux qui, un petit peu plus au nord de l'Italie, ont suivi son exemple. On se lève tous pour l'Orfeo du violon italien, Arcangelo Corelli.
J'ai voulu fuir la tentation de l'habileté, ça c'est très certainement. Quand le pouvoir remplace la douleur, si vous voulez, tout devient en déséquilibre, n'est-ce pas? Et on ouvre la porte au désespoir le plus complet. Oui, il faut être en difficulté, je crois, toute sa vie. Et quand les choses fonctionnent bien, on va vers la grisaille immédiatement. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe, des maladies de luxe.
Bien que se revendiquant enfant de Georg Muffat, les Muffati se trouvent être l'orchestre baroque le plus à même de partir sur les traces laissées par Corelli, que ce soit en France, en Angleterre ou en Allemagne. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, de par l'importance que revêt Muffat pour eux-mêmes. Muffat, celui qui a exporté le concerto grosso de Corelli dans toute l'Europe. De par l'implantation géographique des Muffati à Bruxelles, de par leur amour des goûts réunis, mais sous le prisme germanique, qu'on connaît un petit peu moins, de par leur obsession du geste et de la théâtralité qui les place entre l'élégance française de la danse et la fougue dramatique des coups d'archet transalpins. C'est une émission qu'on a mis plusieurs mois, je ne vous cache pas, à monter, qui reçoit le soutien de la RTBF pour la prise de son. Donc merci à tous les musiciens qui sont ici à France Musique et donc depuis cette salle Amouz à Anvers, à commencer par Rachel Bisley, Marie Hag, Catherine Meus, Madoka Nakamaru, Anne Knop, Bénédicte Verbeck, Laurent Hulsborsch, Marie Moy, Wendy Ruiman, Mika Akiha, Julie Vermelen, Michel Boulanger, Corentin Delicourt, Ronan Kernoa, je ne vous mens pas, il y a beaucoup de monde, il y a aussi Benoît van den Bemden, Chris Verhest, Bart Jacobs, Bernard Sonderman, Vinciane Bauduin, Mathieu Lou et Lisa Goldberg. Un grand bonjour à tous.
Bonjour.
Grand bonjour donc à tous et à vous qui dirigez l'ensemble Les Muffati, Peter Van Hagen. Bonjour Peter.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, c'est génial d'être ici.
Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le lieu où nous nous trouvons actuellement?
On est dans une belle église qui en fait n'est plus une église du tout, parce que l'église a été désacralisée, donc c'est une église baroque au centre d'Anvers, une église qui appartenait aux pères augustiniens,
Augustin, enfin, Augustin, oui.
Et donc, mais maintenant c'est donc un centre de musique, le centre Amuse, Augustinus Musikzentrum, Et voilà, donc on connaît avec les Moufatis, on connaît ce lieu très 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 bien parce qu'on a été à résidence ici pendant 4 années. Et en fait, pendant 8 années, parce que moi j'étais personnellement en résidence avant, donc ça fait une longue période. Et on fait plein d'enregistrements de CD ici aussi, donc bien que les Moufatis soient un ensemble bruxellois. Mais on est très souvent ici à Musée.
En tout cas, on est ravis d'être ici avec vous pour une émission. Alors, on va préciser un petit peu le thème, Peter. Donc, c'est les Corélies du Nord. Quand on en parlait justement en préparant l'émission il y a un an, vous m'avez dit, voilà, bon, Corélie a eu beaucoup de descendants. Mais c'est vrai que la partie germanique, en tout cas Autriche, Allemagne, des gens, des compositeurs qui ont pris Corélie comme modèle, on connaît un petit peu moins cette histoire. Et donc, c'est pour ça que vous êtes le plus à même, les Moufatis, même si vous êtes des enfants de Moufat, de jouer la musique de ses descendants ou de ses contemporains même, en réalité.
Oui, et en plus, c'est une époque hyper intéressante parce qu'on mélange des styles qui avaient, à cette époque-là, vraiment une connotation politique. Donc, on pourrait même dire que, bon, ça peut être un peu exagéré, qu'à un moment donné, jouer une suite française à Vienne, par exemple, bah, c'était vraiment dangereux de le faire, parce que c'est quand même une signe politique. La suite française était exportée comme symbole de la monarchie en général et de la monarchie française en particulier, tandis qu'à Vienne, on aimait beaucoup de la musique italienne. Donc, on jouait avec les styles, mais pour raconter des histoires, pour envoyer des messages au public aussi. Donc, c'est pas seulement intéressant musicalement d'avoir tout ce mélange, mais c'est vraiment, ça raconte vraiment l'histoire de cette époque qui, pour l'Allemagne, je dis, est vraiment, je dirais, est vraiment une époque importante, parce que il faut savoir qu'après la guerre de 30 ans, 1648, l'Allemagne était détruite, culturellement il y avait très peu, donc il fallait rebâtir tout. Et bien c'est notamment les Italiens qui sont venus de l'Italie donc et qui ont été invités au cours, et puis les Français aussi qui se sont rencontrés, et les Allemands qui ont appris des deux.
Voilà, alors on verra pas mal de compositeurs comme Aufsteiner, comme Pes, comme Corélie bien sûr le modèle. Et pour commencer tout de suite ce matin des musiciens ici depuis Anvers, bah bien sûr, Georg Moufat, parce que vous êtes les enfants de Moufat, et c'est-à-dire que vous êtes le papa
des enfants
de Moufat, Peter.
Bon. Non, on est tous des enfants de Moufat.
Voilà, alors on parlera un petit peu de votre histoire. Alors Moufat, ce Savoyard d'ascendance écossaise devenu allemand et formé par justement les deux mastodons de la culture musicale de l'époque, à savoir Lully, Corélie. On ferme les yeux et on vous écoute donc depuis le Centre de musique des Augustins, ici à Anvers, les Moufatis, dans un petit extrait d'un concerto de Moufat, avec un sous-titre « Perseverencia, la persévérance ».
Thank you.
Eh bien voilà, depuis Anvers, nous sommes avec les Moufatis dans cet extrait du concerto numéro 10 de Georg Moufat, Perseverancia en sol majeur. Avec vous, Peter Van Hagen, un grand, grand merci à vous. Alors, on a entendu ici des instruments comme le hautbois, le basson. On va parler, bien sûr, de cette forme absolument géniale qui a recherché une forme de perfection, le concerto grosso. Alors, peut-être pour planter un petit peu le décor, concerto grosso a à voir avec la sonate en trio, Peter, parce que c'est une sonate en trio amplifiée en réalité.
En fait, oui. La première fois que le thème concerto grosso apparaît, ce n'est pas en relation avec un genre musical, mais notamment avec une technique d'instrumentation. Et c'est ce qui a étonné aussi Moufat quand il était à Rome. Tout d'abord,
lui a fait le voyage à
Rome.
Oui,
il a fait. Donc, il devait faire le voyage parce que à Salzbourg, l'évêque trouvait que pour sa formation, il fallait aussi aller en Italie, mais il est allé en Italie surtout pour rencontrer Pasquini.
Donc voilà, c'est le corelli du clavier.
On peut bien dire. Donc le Bach de l'Italie à cette époque. Et donc c'est là que quand même il a rencontré ce fameux corelli qui n'était pas encore longtemps à Rome, mais il était quand même déjà le chef de tout ce qui était musique instrumentale, musique d'ensemble. Et donc notamment il a vraiment retrouvé là cette technique de clair-obscur en musique. Ça veut dire donc de jouer avec des petits ensembles et puis le grand chœur qui fait les contrastes.
Est-ce que c'est une alchimie de l'opposition? Parce que c'est vrai que Moufat, dans les préfaces, on en parlait aussi par téléphone. Sous le mot de piano, il faut que tous jouent uniformément si doux et avec tant d'exactitude qu'à peine on les entende. Ouais. Et sous le mot de forte, inspirer à tous une telle force et véhémence de la première note ainsi marquée que les auditeurs restent comme étonnés d'un si grand bruit. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages qui insistent sur cette idée que le relief naît d'une opposition assez binaire en réalité.
Mais oui, c'est vraiment Caravaggio en musique.
Ah oui.
Donc si on va à Saint-Louis des Français, à Rome, et on voit vraiment les peintures de Caravaggio en place avec la lumière qui... C'est exactement ça en musique. Donc vraiment les grandes taches de lumière, puis les côtés sombres, on cherchait vraiment ça. Et c'était très romain, très typique, né à Rome. Et Moufat, il était plutôt intéressé à tout ça, et bien le son, le jouer d'une manière soignée,
la précision du geste.
La netteté aussi du geste. Mais pas tous ses collègues à son époque avaient cette démarche, ça c'est sûr. Donc Moufat était un des esthéticiens, on pourrait dire, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est quand même intéressant. Lully, qu'il a connu Moufat quand il était très jeune encore, parce qu'il était en France, à Paris, entre 63 et 69. Donc, il est né à 54. Donc, vraiment, il était très jeune quand il a vécu Lully. Là, l'orchestre jouait déjà avec les coups d'archet complètement ensemble, donc égal. Et là, à Rome, il rencontre de nouveau un grand monsieur, Corelli, qu'il faisait aussi déjà. Donc, on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où vient cette influence sur la pratique de Corelli. Est-ce que Corelli l'a copié de Lully? Est-ce qu'il a su ça? Enfin bon, ça, c'est une petite histoire. Mais de toute façon, ça sont les choses qui intéressent à Moufat, et pas vraiment la grande bravoure.
C'est ce qu'on peut dire, la grande bravoure justement des violonistes allemands comme Bieber. Ben et oui. On peut se dire que Corelli a composé cette musique parfaite, harmonieuse, en réaction par rapport
Moufat,
à Bieber.
Tu veux dire Moufat, hein?
Ou Corelli.
Oui, parce que Moufat était collègue de Bieber à Salzbourg. Donc, et il y a des endroits dans ses préfaces où on entend bien que, en fait, Moufat n'aimait pas trop Bieber. Donc Bieber, qui cherchait surtout le capricieux, la grande technique, les doubles cordes, et Moufat qui recherchait une technique, probablement aussi vraiment une technique de violon complètement différente.
Alors je propose d'écouter un extrait d'une des sonates du Rosaire, son œuvre qu'il a fait connaître. Aujourd'hui, en tout cas, parce que ce n'était pas le cas à l'époque, l'Annonciation. Et oui, pour l'Annonciation, nous sommes en pleine musique descriptive, figuraliste. C'est Heinrich Ignaz Franz Bieber, joué par le grand Reinhard Goebel avec le Musikhandika Köln que nous entendions ici. Et cette discussion avec vous, Peter Van Eygen, pour les auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes donc à Anvers, ici. C'est un grand plaisir d'être avec vous, les Moufati. Et avec cette idée que Moufat et Corelli eux-mêmes, dans leur perfection apollinienne, s'opposent précisément à ce langage qui est un langage qui ne pourrait pas d'ailleurs être transformé en concerto grosso. C'est une pure sonate descriptive qui évoque aussi le concerto de soliste, en réalité. Donc à l'opposé presque de l'esthétique de Corelli et de ses descendants. Je sais que vous vous intéressez beaucoup, Peter, au geste, à la théâtralité, et que pour, je ne sais plus quel dit, je crois que le PES, vous avez fait construire des archets.
Oui, tout à fait. Donc on s'est fait... Bon. Mais c'est beaucoup à la fois. Tout d'abord, je dirais quelque chose sur les différents styles, parce qu'il y a quand même aussi l'élément recherche dans des directions différentes à la fin du XVIIe siècle. Donc, l'art d'un Bieber, c'est très, très, très différent, par exemple, de l'art d'un Corelli et d'un Moufat, probablement aussi de l'art de Lully. Donc, s'ouvrent tous des écoles très, très différentes. On a tendance maintenant, avec la distance, de dire « Ah, le violon baroque !» Mais le violon baroque, ça n'existe pas. Il y avait beaucoup de techniques même différentes. Donc, nous, par exemple, la plupart des violistes qui... Enfin, non, tous les violistes, en fait, qui font partie des Moufati, viennent un peu de l'école de Sigiswald Köken, donc c'est l'école qui est compris d'être l'école Chinov.
Chinov, donc est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire pour les auditeurs, hein, Chinov?
Ça veut dire peut-être, je peux vraiment passer un peu la parole à mes violistes même, parce que moi je ne suis même pas violiste.
Voilà, mais ça veut dire en gros...
Que donc ça veut dire qu'on ne tient pas le violon avec le chin, que je ne sais pas
avec
dire en français.
Le menton.
Le menton,
voilà. Donc, voilà. On le pose sur la première côte dont parle Mathias.
Et donc, mais c'est clair que ce n'était pas la seule façon de tenir le violon. Il y a par exemple, je me rappelle, je pense que c'est un gars qui s'appelle Prinner, en Angleterre, fin XVIIe siècle, école de violon, qui dit « The first thing is that I have to tell you is to grip the violin with your chin. » Donc, il faut vraiment prendre le violon. Donc, il y avait des techniques différentes à l'époque. Ce n'est pas que c'est uniforme. Et notamment pour une musique comme celle de Bieber, par exemple, avec beaucoup de passages, avec beaucoup de différentes positions, c'est peut-être utile de temps en temps de tenir le violon avec le menton ou d'utiliser le menton pour aider. Donc, voilà. Apparemment, Moufat n'a jamais demandé une technique tellement extravagante.
Mais Moufat était collègue, vous le disiez, Peter, de Bieber à Salzbourg.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas suivi cette voix.
Non.
Il a suivi la voix de Corelli.
Oui, la voix de Corelli ou de Lully, ou même, même il a montré des chemins à Corelli, parce qu'on n'en sait rien. Corelli doit encore publier son opus 1 au moment que Moufat est à Rome. Donc...
C'est 181, c'est
quand
même très tôt.
On connaît Corelli comme le grand maître, mais il n'était pas encore le grand maître à l'époque. Bon, ceci dit, maintenant pour revenir aux archets, Donc il y avait des outils très 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 différents pour des effets très différents. L'archet baroque que tout le monde utilise maintenant, pour ainsi dire, enfin tout le monde, qu'on utilise comme l'archet baroque normal, c'est plutôt représentatif pour la période 1750.
Et oui, c'est bien plus tard.
Mais pour le XVIIe siècle, on avait des archets qui étaient beaucoup plus courts, qui avaient une pointe très différente, et surtout qui avaient un mécanisme de clipping. Mais peut-être là, je peux passer la parole à Rachel. Rachel, could you tell us something about this bow and how it is different from
donc à propos de l'archet, parce que donc Rachel Bisley, donc votre concertmeister, vous changez souvent, a deux archets entre les mains. Rachel, est-ce qu'on pourrait entendre la différence? Can we hear difference between the two of us?
Ça c'est vraiment l'archet normal, enfin le plus long que tout le monde utilise comme archet baroque maintenant. Et voilà. Et maintenant, l'archet est beaucoup plus court avec ce mécanisme différent aussi. Qu'il est un archet qui parle beaucoup. Donc l'autre, on peut dire, chante peut-être plus. C'est vraiment, enfin, on entend vraiment des gestes beaucoup plus larges, tandis que le deuxième est beaucoup plus petit et beaucoup plus précis et parle beaucoup plus.
Est-ce qu'on n'aurait pas justement l'idée d'opposition entre les voyelles italiennes, le fait qu'on ait ce plaisir de la sonorité à l'époque de Corelli, et puis ce côté un petit peu plus parlé, un peu plus déclamatoire de la musique française?
Oui, mais comme avec tout, on ne peut pas isoler un seul élément, parce que maintenant on peut parler de la tenue de l'archet. Donc ça veut dire qu'on peut tenir aussi l'archet avec l'appui sur la housse, ou bien comme on faisait déjà en Italie à la moderne, ça veut dire qu'avec tous les doigts au bois de l'archet en fait. Donc ce n'est pas seulement la longueur et la construction de l'archet qui fait toute la différence. Parce que, par exemple, on sait de Corelli qu'il avait un archet court.
Oui, mais alors ça a sûrement des incidences aussi sur le tempo, parce qu'on sait aussi que Muffat, dans une de ses préfaces, je ne sais plus laquelle, j'ai relevé ça, parlait de la direction de la mesure et du temps, et disait qu'il fallait imiter les Italiens au possible, qui, sous les mots adagio, grave, largo, jouent beaucoup plus lentement que nos gens, et telle fois de sorte qu'il semble qu'on ne le saurait attendre, et au contraire, sous l'allegro, vivace, etc., ils vont incomparablement plus vite qu'on a accoutumé dans ce pays. Je vous dis ça parce qu'on se dit esthétique de la sonate en trio, le concerto grosso, simplement, pour rechercher une forme de perfection apollinienne, la notion même de tempo est très importante. Oui, donc quand on a un archet qui est peut-être un peu plus court, est-ce que ça n'a pas une incidence sur le tempo, justement?
Tout ça peut vraiment jouer un rôle important. Mon expérience, c'est que les gens utilisaient vraiment, parce qu'on a souvent l'impression maintenant, les primitives là, qui jouaient sur, avec des outils qui, maintenant, on a beaucoup des outils beaucoup plus parfaits. Ben non, ce n'est pas le cas. Ils savaient exactement ce qu'ils utilisaient. D'ailleurs, nous, par exemple, c'était un de nos projets avant le Disc Pit, comme vous le disiez avant. On voulait avoir des archets plus courts, donc des archets anciens, pour ainsi dire. Et en fait, peut-être, Laurent, tu peux en dire quelque chose, parce que c'est quand même, Laurent, c'est un de nos violistes, c'est quand même une histoire intéressante ce qu'on a fait là.
Donc, Laurent Lesborges.
Oui, bonjour. Donc, en effet, ce projet des archets courts, c'était un chouette projet laboratoire pour l'ensemble. Et donc, on s'est en effet amusé sous les instructions d'un maître luthier, archetier en l'occurrence, on s'est amusé à fabriquer ces archets en partant du principe que les musiciens d'époque ne devait vraisemblablement pas disposer de fortune pour se payer des baguettes en bois exotique, et donc en privilégiant un savoir-faire assez simple et en choisissant des fois des essences locales, on s'est fabriqué des archets courts en l'espace d'une semaine. C'était une chouette expérience.
D'accord.
Mais ça donne aussi un lien, l'instrumentiste avec son propre outil qu'il a fait lui-même. En fait, ça a eu beaucoup d'autres influences sur le groupe que seulement l'outil juste pour une musique spécifique. Ça va beaucoup plus loin, en fait.
Alors, merci donc à vous, les Muffati, d'être avec nous ici à Anvers. C'est un réel plaisir et on vous écoute donc tout de suite, justement pour revenir à la musique du maître, la musique de l'archange Corelli, de l'Orfeo du violon italien. Dans une sinfonia en ré mineur, on écoute donc le grave et l'allegro. Les Muffati, Peter von Hagen, c'est à vous. Thank you. un matin des musiciens tout particulier puisque nous nous trouvons ici à Anvers dans cette formidable église des Augustins. Aujourd'hui, salle de concert à Mouze avec Les Moufati que nous venons d'entendre dans cette symphonie en ré mineur, le grave et l'allegro d'Arcangelo Corelli. Alors un grand merci à vous Les Moufati. On a beaucoup de questions à évoquer. Une question importante, bon, on parlait un petit peu du tempo, lié ou pas à la longueur de l'archet. Bon, on sait en tout cas que dans cette logique binaire d'opposition du fort, du piano, il y a aussi l'opposition du concertino et puis du tutti, c'est-à-dire du ripieno. Donc l'opposition de trois instrumentistes solistes avec le reste de l'orchestre qui vient renforcer un petit peu tout ça. C'est l'idée de l'amplification, toujours de la sonate en trio qui devient un concerto grosso. Mais alors, donc, se pose la question, pour vous, dans votre travail quotidien, de quel effectif vous privilégiez pour jouer cette musique de Corelli, Peter?
Eh bien, c'est une question importante parce que je pense que la réponse serait exactement la même pour Corelli à son propre époque. Ça veut dire que ça dépend de l'argent.
D'accord. Ami mécène, c'est un...
C'est vraiment... On sait que les mêmes concertos ont été joués avec 40 musiciens
bien sûr.
Et avec 10 musiciens. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, bien sûr que pour nous, dans un programme de concert, on choisit des proportions en fonction de tout ce programme, donc on fait un peu de différence. Mais il n'y a pas de règle fixe. Tous les concertos grosso qui ont été imprimés, par exemple, sont parfaitement jouables avec un seul musicien par partie.
Par partie.
Ça veut dire les trois membres du concertino et puis les quatre membres du ripieno. Donc on joue en 7 ou en 8 en ajoutant un instrument de clavier ou un instrument de basse continue. Mais donc c'est parfaitement possible. Mais on peut amplifier le ripieno avec 10 personnes par partie. Donc
voilà, alors on a même un exemple justement chez Corelli, j'avais lu ça aussi quelque part, pour une cérémonie un peu particulière pour un cardinal avec 39 violons, 10 altos, 17 violoncelles, 10 contrebasses, un luth, 2 trompettes, etc. C'est intéressant, mais bon, c'est pas tous les jours.
Non. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'il y avait le plaisir quand même d'une patte sonore massive.
Tout à fait. Et surtout une patte sonore basée sur les basses. Parce que ça, on oublie très, très, très souvent que vraiment la partie de basse, surtout dans la musique italienne, était beaucoup plus importante. Donc, on n'ose jamais mettre assez de basse, je trouve, de nos jours.
Bah, c'est intéressant parce que c'est vraiment une musique aussi des extrêmes, dans le sens où on privilégie, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, Peter, mais les basses et les aigus, que la question du milieu, bon, c'est la question de l'ombre projetée, c'est-à-dire que ce soit les parties d'alto ou de violon 2, vont renforcer...
qui sont super importants, mais qui n'ont pas cette importance que les voix des extrémités. Et en plus, ce qui est intéressant à cette époque, c'est qu'il y a beaucoup de sortes d'instruments de basse, parce que maintenant, on connaît le contrebasse et le violoncelle, bon, c'est une chose, mais il y avait beaucoup d'autres tailles et d'autres sortes de basse. Il y a des traités qui sont pleins de remarques sur à Benoît, par exemple, Benoît van den Bemmen, qui est notre contrebassiste.
Voilà, alors, qui a
on en parle
basse de violon, justement, sur les genoux. Alors Benoît, quel est cet instrument et surtout, à quel moment vous le jouez? Il peut être soliste, cet instrument, dans le concertino par exemple?
Donc l'instrument que j'ai sur les genoux pour le moment, on l'appelle aujourd'hui un violone. En France, on dit souvent violone. En gros, ça veut juste dire un grand instrument à cordes. Et donc, en l'occurrence, le mien, il a 6 cordes et il ressemble plutôt à une grosse viole de gambe. Mais en Italie, on appelait violone aussi les basses de violon à 4 ou 5 cordes. Mais aussi cet instrument à 6 cordes. Donc, le nom ne veut pas directement dire un instrument. Alors, oui, effectivement, l'instrument peut être soliste. Par exemple, chez Moufat, on peut jouer le Moufat avec 2 violons, 2 altos et un violone. Juste à 5, ça fonctionne très bien aussi.
Et ça, c'est aussi une grande différence à vous écouter, Benoît, on en parlait avec Peter. Le fait que Moufat, à la différence de... Bon, peut-être un petit peu plus, j'ai l'impression, que Corelli, dit qu'on peut quand même modeler le concertino, qu'on peut y rajouter des hautbois, bon, des bassons, on va l'entendre...
Bah, comme on l'a entendu au début du programme, donc le Moufat qu'on a joué, d'ailleurs, on a remplacé les violons par des hautbois, par exemple. Hein. Mais là, par exemple, pour revenir aux basses, ici, dans la musique italienne, par exemple, il y avait... presque toujours un 16 pieds, donc un contrebasse vraiment qui sonne, donc plus bas que violoncelle. Mais l'instrument principal à cette époque était ce qu'on appelle maintenant basse de violon, qui est vraiment un instrument un peu plus grand que le violoncelle. Et tout ce mélange existait. Donc nous, chez les Moufati, on essaye aussi toujours de chercher des espèces d'instruments de basse différentes pour faire des combinaisons différentes pour des musiques différentes. Mmh. Mais c'est vrai que c'est aussi un peu laboratoire. Il n'y a pas de loi officielle quoi utiliser, quoi.
Alors, on va vous écouter donc tout de suite les Moufati, toujours dans du Corelli. En quelques mots, peut-être, Peter, une réponse. Qu'est-ce qui est génial dans cette musique? C'est quoi? C'est l'harmonie? C'est la perfection? C'est ce jeu d'ombre et de lumière?
Oui, c'est tout à la fois. Et le fait que le compositeur l'a voulu créer comme des exemples, comme exemplum. Et je pense qu'il est très bien réussi.
Avec très peu de musique, hein, 6 opus, on leur dit tout le temps, ça c'est le truc connu de Corelli, c'est 6 opus, c'est moins de 10 heures de musique en 35 ans de carrière, ce qui est quand même quelque chose qui pose une vraie question à l'histoire de la musique par rapport à ses contemporains comme Vivaldi qui composait, je veux dire, bon, la musique au maître, hein, pour faire simple. Alors on vous écoute donc dans ce sublime début du concerto, donc c'est l'allemande, de l'opus 6, le dernier opus, numéro 11 en si bémol majeur, avec justement un violoncelle solo, les Mufati, ici, depuis Anvers, c'est à vous.
Thank you.
Et voilà, depuis cette salle placée sous l'ordre des Augustins ici à Anvers, nous venons de vous entendre les Moufatis dirigés par Peter van Hagen dans cette allemande de l'opus 6 numéro 11 en si bémol majeur, très précisément d'Arcangelo Corelli. Un grand, grand merci à vous. Quelle belle musique et surtout aussi beaucoup d'originalité. On a l'impression que toute la musique de Corelli se ressemble, qu'elle fonctionne selon le même schéma, mais en fait pas du tout, puisque ici on a entendu un violoncelle solo joué par Michel Boulanger qui est juste devant nous, comme quoi il y a peut-être aussi cette idée de concerto soliste un petit peu chez Corelli, hein, de oui. Faire émerger en tout cas une voix qui n'est pas celle qu'on attend.
Tout à fait, mais on a quand même tendance de comprendre tout ce que Corelli a composé, on le met dans un cadre. Et ça, c'est vraiment le désavantage de la musicologie. Enfin, si par exemple, on entend des concertos grosso de ses contemporains, de Valentini, de Montanari, de Mossi, tous ces Italiens qui étaient à Rome à l'époque de Corelli et qui jouaient ensemble avec Corelli très souvent comme
ou
musicien.
Sous sa direction.
Eh bien, à chaque fois, c'est une musique différente avec oui. un violon solo, avec un quatuor comme concertino au lieu d'un trio. Donc, il n'y a pas de règle officielle. C'est comme la différence entre sonata da chiesa, sonata da camera. En fait, on veut tout mettre dans des casiers spécifiques et on veut tout. Mais il y a une plénitude d'expérimentation qui se rencontre.
Et voilà. Complètement. Et vous citiez Peter van Hagen, le cas de Valentini. Bon, on voulait en écouter. C'est vrai que Valentini, il y a un formidable concerto pour quatre violons qu'a enregistré Chiara Banchini. Mais cette idée aussi de se démarquer du grand modèle corélien. Et puis Valentini disait bien qu'il avait essayé dans son opus 7 de 1710, donc 10 ans après l'opus 5.
Avant Corelli.
Voilà, c'est ça. D'écrire des concertos dans le style nouveau. Ouais. Alors, il y a plein de manières, vous le dites, effectivement, de personnaliser son concerto grosso. Il y a justement les parties qu'on alloue aux instruments solistes. Il y a le travail sur la forme, l'alternance entre concertino et ripieno, bon bref. Et puis sur la bizarrerie aussi. Oui, on peut travailler sur les harmonies, enfin, il y a plein de choses à faire. Alors, on va faire un petit exercice avec vous, les Moufatis, si vous êtes d'accord. Je sais que vous avez enregistré, bien sûr, un disque consacré à Georg Moufat. C'était impossible de faire autrement, hein, Peter ?
Bah, c'était notre premier disque.
Bah oui, voilà, c'est le premier. Chez...
Il y a longtemps.
chez Ramé. Et donc, on va écouter le début pour vous dire quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux esthétiques dans cette musique de concerto grosso de Corelli et de ses contemporains, avec la Sinfonia de l'Armonico Tributo de 1683 de Moufat, dans quatre versions différentes, à commencer par la première. Alors voilà, c'est la première version, Moufat, Sinfonia en ré majeur, l'ensemble 415, Chiara Banchini, bien sûr. Alors là, première réaction à chaud, Peter.
Ben oui, bon, beaucoup de gens,
ben oui.
Beaucoup de musiciens.
Ça, c'est la version un peu cérémonielle, il y a un cardinal et on mobilise 40 violonistes.
Plein air, peut-être pas pour l'enregistrement, mais en principe plein air, grande tribune, beaucoup de musiciens, le visuel étant aussi important que l'auditif, donc vraiment le style romain, vraiment grand orchestre,
complètement,
avec beaucoup d'agents.
Et alors, on se dit que cela a une incidence sur le tempo, comparons avec la deuxième version. Deuxième version de cet Armonico Tributo, dans la version donc de l'Ars Antiqua Austria, dirigée par quelqu'un que vous connaissez bien, Peter Van Hagen, c'est Gunnar Letzbor. Donc là, un autre parti pris, comment l'entendez-vous ?
Avec des solistes, hein, donc comme Mouffat l'écrit, il ne faut pas forcément le jouer avec ce principe de concerto grosso, on peut le jouer en musique de chambre aussi. Donc, et ici, en fait, on a encore la juxtaposition entre le trio de solistes et le quintet d'Uripieno, pour ainsi dire.
Complètement. Et ouais, on peut décider de jouer justement sur cette frontière infime entre le tutti et puis le concertino, en disant n'accentue pas trop justement cette différence.
Et voilà, et c'est beaucoup plus intimiste.
Donc complètement.
Mais la même musique peut servir pour ça. Ouais.
Version numéro 3. Troisième version radicalement différente, celle du Parley of Instruments. Donc c'est une des premières versions, ça s'entend un petit peu, 1981, Roy Goodman et Peter Allman, qu'on connaît aussi bien, qui a écrit de très beaux livres. Alors on peut se dire presque version pionnière.
Moi je trouve ça la grande mérite de Peter Allman. Il est de nouveau un des premiers de l'avoir fait, il y a tellement beaucoup d'années. Donc,
style plus droit, et c'est vrai aussi qu'on se dit parfois que ça leur va bien quand même, ce jeu aux Anglais à deux violons très droit. mais que peut-être c'est très mesuré en réalité.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est un vieux enregistrement, enfin vieux dans le sens que c'est des années 80, je pense. Ça veut dire que même à l'intérieur de la musique ancienne, il y a des versions qui sont datées, donc tout est susceptible à la mode. Ça, c'est quand même intéressant. Peut-être on dirait la même chose de notre enregistrement dans 15 ans.
Bah, écoutons-le maintenant. Cette musique est belle. Ici, nous écoutions la dernière version par vous, Les Moufati, de ce premier disque que vous avez fait paraître chez Ramé en 2005, donc de l'Armonico Tributo de Moufat. Alors, on se dit quand même que cette musique est absolument géniale parce qu'on y trouve tout ce qu'on a envie d'y trouver selon ses goûts. Si on aime des basses généreuses, bon bah on peut piocher dans les versions qu'on préfère. Si on préfère l'éloge de la lenteur, comme Enrico Gatti le dit, bah on va vers des versions voilà, un petit peu plus lentes ou d'autres plus rapides, comme je sais qu'Amandine Beyer préfère aussi parfois la vitesse, qu'elle trouve que ça correspond un petit peu plus à notre monde contemporain. Donc, c'est vraiment une musique absolument géniale. Alors, merci d'être avec nous, Peter van Hagen, Les Moufati, depuis Anvers. Et alors, on parlait justement des descendants, des contemporains de Corelli qui ont pris modèle justement sur l'Orfeo italien, mais depuis l'Allemagne. Et alors, à commencer par un compositeur, bon, pas très connu quand même, qui s'appelle Anton Benedikt Aufschneider, et qui prend la succession de Moufat à Passau en 1705, donc...
Et c'est à peu près la seule chose qu'on sait de
lui. D'accord.
Donc, non, mais pour nous, de temps en temps, prendre des œuvres des compositeurs moins connus, ça fait quand même partie un peu de ce qu'on considère comme notre mission. Je trouve que bon, l'image de l'histoire qu'on a est très, très, très limitée. Et si on ne fait pas attention, ça va se limiter encore plus vers seulement Handel, Bach, Vivaldi, et si on a la chance, un peu de Tillman.
Ben, c'est ce que tous les musiciens disent, notamment en termes de programmation de festival.
Oui, tout à fait. Parce que là, l'organisateur est rassuré que le public va venir, donc finalement, on finit de jouer seulement les grands compositeurs. Eh bien, moi, je trouve qu'effectivement, pour mettre ces soi-disant grands compositeurs en valeur, il faut vraiment remplir toute l'image de tous les petits. Et Aufschneider, clairement, à l'intérieur de ce programme, fonctionne très, très, très bien parce qu'il combine aussi, lui aussi, plusieurs styles nationaux. J'entends un peu de français dans l'ouverture.
Bon, c'est très franchement français au tout début.
Tout à fait. Puis un peu plus tard, même du Purcell, ce qui ne veut pas dire que maintenant, je veux dire que Aufschneider avait des contacts avec Purcell,
mais sûr,
pour simplement dire que les styles nationaux traversés en Europe étaient connus par des compositeurs, même les compositeurs qui n'ont jamais été sur place.
Donc pas besoin d'aller en France ou pour
par exemple,
composer
dans
le style français.
On sait par exemple que Johann Christoph Peetz, un autre grand compositeur de cette époque, n'a jamais été en France, par exemple. Mais bon, il connaissait un maître de danse à Munich. Donc, il y avait toujours un lien possible. Aufschneider, on sait qu'il a travaillé à Vienne. Il en parle. Enfin, bon, il y a une préface dans laquelle il dit « Bon, ça, j'ai joué à Vienne, donc il a été à Vienne, mais c'est à peu près la seule chose qu'on connaît de lui. » Il a composé des messes, des motets, donc vraiment, c'est quelqu'un qui a composé beaucoup plus que Corelli, par exemple.
Bien sûr, et donc on se dit même, c'est intéressant quand même, parce que Corelli, à ma connaissance, n'a jamais composé de la musique pour violon solo.
Non.
pour violon seul.
Sans rien. Oui,
sans rien.
Ça,
bon, c'est vrai que Bieber, dans les sonates du Rosaire, il y a la passacaille finale qui conclut. Bon, voilà. Tous ces compositeurs allemands des années 1780, 1790 ont composé aussi Westhoff pour le Walther, pour le violon seul. Corelli, jamais. Et d'ailleurs, en fait, en préparant l'émission, je me suis dit, mais pour Corelli, j'imagine qu'à sa place, il devait trouver qu'il n'y avait aucun sens, puisque la beauté de la musique n'était que dans l'entrelacement des voix.
Mais on ne connaît pas toute son histoire. Donc, Corelli a été maître de tout ce qui était musique d'ensemble à Rome entre 1680 et sa mort, 1713. Et les seules œuvres orchestrales qu'on a de sa plume, c'est les 12 concertos opus 6.
Bien sûr.
Et avec la seule symphonie de Santa Beatrice qu'on vient de jouer tout à l'heure, de 1689, c'est les seules 13 œuvres orchestrales. Donc, il a dû composer et jouer beaucoup plus que ça. Donc, ou bien il jouait des sonates en trio amplifiées en concerto grosso, c'est une possibilité, ou bien il a fait détruire ses œuvres qu'il a jouées et composées avant, parce qu'il trouvait, par exemple, que les œuvres d'opus 6 étaient vraiment beaucoup mieux que tout ce qu'il avait composé avant. Les compositeurs le faisaient à l'époque. On brûlait facilement des œuvres. D'ailleurs, pas toujours par le compositeur même, souvent c'était fait par le duc qui possédait l'œuvre d'un compositeur. Donc là, avec Corelli, il y a quand même beaucoup de possibilités. Peut-être qu'il a bien composé pour violon seul, mais qu'on n'a plus ses œuvres.
Alors, on vous écoute donc les Muffati dans cette sérénade. C'est aussi un des termes qu'on trouve beaucoup pour l'avatar de Concerto Grosso d'Anton Benedict Aufschneider, 1665-1742, qui prend donc la succession de Muffat à Passau en 1705. Les Muffati, depuis Anvers, c'est à vous. Et voilà, matin des musiciens depuis Anvers avec les Moufati, depuis le centre de musique des Augustins, Amuz, A-M-U-Z, ici, matin des musiciens tout spécial, avec les Moufati qu'on vient d'entendre dans cette œuvre de Anton Benedict Aufschneiter, qui meurt en 1742, Sérénade numéro 4 en La mineur, extrait d'un recueil, Peter, qui a, je trouve, un nom qui évoque beaucoup cet univers du concerto grosso et du charme, de la magie de la sonate en trio, dans l'idée que c'est l'entrelacement entre deux dessus et une basse continue. Concors discordia amori et timori.
Tout
comment
à fait.
On pourrait traduire ça.
Donc, c'est en fait, l'essai de mélanger les opposés.
De les combiner.
Et ça, c'était vraiment l'idée de Moufat aussi, comme on l'a déjà dit, entre le style français et le style italien. Ici, d'ailleurs, on le sent aussi parce que ça s'appelle Sérénade. On le vend sous le titre de Concerto Grosso, mais en fait, on entend une ouverture à la française. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque, on essaie vraiment de mélanger les opposés et d'en créer une. D'ailleurs, cette musique n'est pas une musique qui était jouée pour à danser ou dans une église. C'était vraiment de la musique qui était jouée devant un public qui devait écouter. Donc, c'était vraiment musique de concert. Et ça, c'est vraiment étonnant. Une musique instrumentale, bon, pas vocale, ça ne raconte pas une histoire avec des mots, mais c'est vraiment une musique qui sait toucher les gens et les gens sont là et écoutent. Ça, je trouve incroyable,
oui,
pour l'époque de toute façon.
Alors, c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup posé de questions quant au contexte d'audition, par exemple, des sonates de Bieber. Est-ce que c'était juste pour un usage domestique du prince électeur dans une petite chapelle retirée? Et c'est vrai que, de toute façon, le concerto ou la sonate en trio maintiennent cette ambiguïté entre da camera et da chiesa, c'est-à-dire de chambre ou d'église profane ou sacrée. Et donc, on va passer à un autre compositeur avec vous qui s'appelle Johann Christoph Petz. Peter, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous en savez?
Johann Christoph Petz, c'est un des lullistes allemands. Donc, on les appelle les lullistes, tous ceux qui se sont inspirés du style français. Bon, Petz, il est déjà spécial parce qu'il n'a jamais été en France, mais il a été à Rome, chez Corelli.
Donc, mais il a quand même. De 1689 à 1692, hein, c'est ce que vous dites dans
tout
le livret de votre
oui,
disque.
Tout à fait. Mais il a quand même donc, composé dans le style français et dans le style italien parce qu'il connaissait d'Ardespin, donc le grand maître de la danse à la cour de Munich. Johann Christoph Petz est né à Munich, a travaillé à Munich, puis a travaillé à Bonn chez le frère de notre gouverneur ici dans les Pays-Bas.
Ah oui, parce que oui, c'est ça. Bah, du coup, il a habité Bruxelles, je
oui,
crois.
Bah, oui, en fait, avec les Moufat, on a joué dans le château où probablement Petz a joué donc, à Brühl, le château de Brühl. Ça va, le monde est petit. Et qui, après, a travaillé à Stuttgart. Son œuvre de musique orchestrale, on appelle ça maintenant parce que, bon, bah, je dis ça, on l'appelle comme ça parce qu'en fait, on peut toujours jouer à un par voix aussi, hein, donc, comme on l'a déjà
bien
vu
sûr.
Avec Moufat, se trouve pour la plupart à Dresde et à Rostock. Et en fait, ça a été une recherche de notre part, en fait, de redécouvrir ce compositeur qui, pour moi, a le même niveau de compositeur que Moufat. C'est un grand nom qui a été oublié par l'histoire, mentionné par Telemann comme un des grands de son
voilà,
époque.
Voilà, oui, c'est ce que vous dites dans le livret, des six grands compositeurs
ouais,
allemands.
En Allemagne, donc Johann Christoph Petz est vraiment un compositeur important. Ses sonates en trio, ben, j'en connais beaucoup de musiciens professionnels qui disent « Ah, une belle sonate de Corelli, j'ai jamais entendu. »
Oui.
Et ça sera une sonate de Petz, par contre.
Et puis même dans ce qu'on va entendre justement ici, donc c'est le concerto, alors concerto-sonate en fa majeur, moi j'aime beaucoup le terme parce
oui,
que
hein.
Ça ressemble beaucoup quand même, vous faites un petit prélude justement, je crois, à l'orgue pour commencer. Avec une partie de violon solo, un petit peu à Bieber aussi. Il y a
oui,
quand
oui,
même toute la tradition germanique
oui.
des années 1680.
Oui, et si ce qu'on entend, à mon avis, c'est vraiment le fragment qu'on va vous jouer maintenant, c'est vraiment donc au milieu de la sonate, du concerto sonate. Et donc, il y aura trois solistes, donc, avec un complément d'orgue et de théorbe, donc les deux violons et le basson, tout à fait dans le style proche, je dirais, viennois, en fait,
ouais,
de Bertali ou de
Schmelzer.
Et puis, à la fin, donc, quand le tout irrépied, nos groupes se rejoignent, on est vraiment avec Corelli.
C'est magique. Ouais.
Et donc, à quel niveau les compositeurs assimilaient des styles et l'utilisaient dans la rhétorique d'une pièce comme contraste et pour vraiment faire vivre une pièce. Et on peut bien s'imaginer que les gens qui écoutaient une telle œuvre vraiment entendaient toute l'histoire parce qu'on raconte des histoires avec des styles spécifiques.
Avec aucun problème de le fait de passer d'une influence viennoise autrichienne à l'influence. Les goûts réunis,
voilà,
c'est dans.
Tout à fait, les goûts réunis, parce que l'Autriche, quand
dans
même,
la succession.
Il ne faut pas oublier qu'une des premières sources modernes sur cet art, sur la musique baroque tout court, mais aussi sur le mélange des styles à Autriche, c'était Arnoncourt dans son fameux livre des années 80 sur,
musical,
je ne sais pas comment ça s'appelle.
Le dialogue musical.
Ah, oui. Et donc, vraiment, c'est en Autriche que cette mélange, enfin, Autriche, le sud de la Sainte Empire, en fait, que cette mélange se fait. Johann Christoph Petz, compositeur beaucoup plus important de ce qu'on pense.
Voilà, et très belle pièce donc, qu'on écoute tout de suite sous le crin des Muffati, la sonate de concert, ou concerto sonata en fa majeur, Johann Christoph Petz, depuis Anvers. Les Muffati ici depuis le centre de musique des Augustins à Mouze, cette formidable salle, cette église désacralisée mais que vous sacralisez ou que vous rendez sainte, les Muffati dirigés par Peter van Hagen dans cette sonate de concert en fa majeur de Johann Christoph Petz, encore un compositeur que vous nous permettez de redécouvrir, donc un grand merci à vous. Alors on va continuer avec Petz, mais peut-être juste avant, parce que là on a vu le Petz un peu peut-être le plus italien, on va voir si il va jusqu'au bout de son idée des goûts réunis, mais je passe la parole à Laurent Holzbosch justement, dans l'histoire des Muffati, parce que Peter vous êtes arrivé un petit peu après, hein. Ça, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là, début, oui. Vous êtes arrivé quand?
Moi je suis arrivé à 2004, donc, notamment pour le projet Muffat en fait, pour le CD Muffat.
Donc c'est vrai qu'en France, des connaisseurs qui écoutent beaucoup de musique baroque qui sortent vous connaissent un petit peu, c'est vrai que vous pourriez peut-être nous redire un petit peu l'histoire, Laurent, des Muffat.
Oui, certainement, c'est vrai que c'est une longue aventure déjà, que Peter nous a rejoint il y a bientôt une dizaine d'années. Le premier concert qu'on a donné, c'était en 96. Je me souviens qu'il y avait déjà du Muffat au programme et qu'il a fallu dans l'urgence qu'on trouve un nom à l'ensemble. Et C'est un des violoncellistes du groupe d'ailleurs qui, sans concerter les autres, a dit les Moufati, et puis voilà, on a gardé ce nom-là depuis. Mais à la base, l'ensemble fonctionnait vraiment comme un outil de formation en marge de l'enseignement qu'on recevait au conservatoire. Parce qu'à l'époque, au conservatoire à Bruxelles, francophonie belge, on va dire, il n'y avait pas encore de musique ancienne, et donc on s'est en quelque sorte organisé notre propre outil de travail. Donc on abordait des programmes, et pour chacun d'entre eux, on allait chercher les spécialistes qui pouvaient le mieux nous transmettre leur savoir. Et donc c'est comme ça que, bon, on invitait pas mal de gens, et on a fini par tomber sur Peter, parce que l'équipe évoluant, on s'est tous progressivement spécialisés dans la technique aussi de musique ancienne, alors au conservatoire flamand, où les cours se donnaient, et où Peter enseignait également. Et donc on a eu la chance de faire sa connaissance, et on l'a invité, c'était en 2003 je pense déjà, oui, pour un premier programme de Bononcini, la Maddalena. Et donc on a trouvé une convention très profitable pour l'un et l'autre. D'accord. Donc Peter, on avait besoin de chef, je pense que Peter était très intéressé aussi de trouver un ensemble qui puisse accompagner son ambition aussi d'évolution dans la musique.
Et puis cette dimension de recherche, et effectivement. Alors on continue donc avec Johann Christoph Petz. Vous l'avez enregistré, bien sûr, cher Amé, donc si ça vous intéresse, de votre côté du poste, bien sûr, vous pouvez vous procurer le disque. Mais alors, Telemann le cite comme un des 6 compositeurs allemands les plus importants. Les goûts réunis à l'allemande avec des éléments italiens et puis aussi des éléments français, quand bien même ce qu'on va entendre s'appelle Concerto Grosso,
oui,
Peter.
C'est très bizarre, on utilise des termes parce que le Concerto Grosso ici, bien sûr, qui veut dire l'opposition du trio d'hautbois et basson, et avec le ripieno, ce qui fait un effet de concerto grosso, mais Lully le faisait aussi, bien sûr.
Bien sûr.
Sans l'appeler concerto grosso. D'ailleurs, Lully était un Italien, il faut le
dire. Si on l'a oublié.
Donc,
oui,
tout est mêlé, en fait. C'est intéressant de voir ce mélange. Et nous, on a toujours l'ambition de mettre tout dans un côté, mais en fait, à l'époque, on s'amusait à vraiment combiner les choses. Donc, ici, on va entendre une chaconne qui sort vraiment, enfin, qui fait partie de soi-disant concerto grosso.
Voilà, mais alors, bon, on n'aura pas forcément le temps de tout aborder, parce qu'on arrive à la fin de ce matin des musiciens, mais ça pose des questions en termes de continuo, parce que le continuo, quand on joue du Corelli ou du Lully, c'est quand même pas tout à fait pareil, dans non, la manière d'égrener les notes, dans les retards, dans les harmonies, etc.
Ben non, bah, ça veut dire que ça c'est une longue histoire, on pourrait vraiment faire,
oui,
toute une
matinée. On fait une émission là-dessus.
Oui. Oui.
On garde ça, on n'en parle pas alors, d'accord?
Ben oui, ok, enfin,
c'est un bon concept, c'est en radio de poser une question puis de ne pas vouloir avoir la réponse, mais ça nous donne l'occasion, Peter, de refaire une émission là-dessus, puisque Chris justement avait préparé quelque chose. Mais en tout cas, si vous avez des questions du côté des auditeurs, bien sûr, on transmet les mails et vous y répondrez.
Merci beaucoup.
Alors, on vous écoute tout de suite dans cette chaconne très française de Johann Christoph Petz en sol mineur, les Moufati, c'est à vous. Thank you. Concerto grosso en sol mineur, une chaconne et une bourrée notée presto de Johann Christoph Petz, interprété ici à Anvers par l'ensemble Les Moufati, dirigé par vous, Peter Van Hagen, avec donc deux solistes ici, Rachel Bisley qu'on entendait au violon, et à la basse de violon, Corentin Delicourt. Un grand, grand merci à vous. Alors, musique de soliste et à la fois musique d'ensemble, profondément, quand on sait que Corelli pouvait... piquer des racontons, pas la source, mais des colères noires, quand oui. Il voyait un violoniste qui n'avait pas le même mouvement que le pupitre, en fait. Il y a même l'émergence de la notion de pupitre et de précision.
Tout à fait. C'est l'origine de l'orchestre.
Mais complètement. Ouais. Alors, un grand merci à vous. On va refermer cette émission avec le papa des Moufati, c'est-à-dire Georg Moufat. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, Peter, mais encore une fois, ça sera peut-être l'occasion de faire une autre émission, la dimension vocale de tout cela.
Tout à fait.
Parce qu'on sait que, moi je me rappelle, j'avais fait une émission à partir des motets de Tonelli qui travaillait à partir des sonates de l'opus 5, de l'opus 4. Donc voilà, donc on parle souvent de l'inspiration vocale. Est-ce que c'est réellement le cas dans le cadre du concerto grosso, alors même que c'est, on pourrait considérer que c'est tout simplement l'émergence de cette perfection de l'orchestre, donc typiquement instrumentale.
Ça serait vraiment un bon sujet de recherche.
Oui,
la dimension vocale. Je ne saurais pas la réponse immédiate. Je l'ai toujours vu dans un contexte strictement instrumental, mais effectivement, c'est une démarche très, très, très intéressante.
Un grand merci à vous, l'ensemble Les Moufati, donc alors composé de Rachel Bisley, Marie Hag, Catherine Meus, Madoka Nakamaru, Anne Knopp, Bénédicte Verbeck, Laurent Hulsbosch, Marie Moy, Wendy Ruiman, Mika Akia, Julie Vermelen, Michel Boulanger, Corentin Delicourt, Renan Kernoa, Benoît Vandenbemden, Chris Verhelst, Bart Jacobs, Bernard Sonderman, Vinciane Bauduin, Mathieu Lou, Lisa Goldberg. Bah vous voyez, il y avait beaucoup de monde et donc on vous écoute dans la sonate numéro 1 en ré majeur justement de Georg Moufat. Un grand merci à vous tous et au revoir.
Au revoir.
Et voilà, celui que je n'ai pas cité, c'est vous, Peter Van Hagen. Un grand merci à vous, Peter.
Un grand merci à vous.
On refait ça l'année prochaine ?
Avec beaucoup de plaisir.
Merci à vous. Et on se quitte avec, bien sûr, Moufat. C'est à vous. Thank you. Et voilà, c'est la dernière pièce qui refermait ce matin des musiciens enregistrés au Centre de musique ancienne Amus à Anvers, en Belgique, avec Les Moufatis dirigés par Peter Van Hagen dans ce menuet de la sonate numéro 1 en ré majeur de Georg Moufat. Un très très grand merci à toute l'équipe. Merci également, bien sûr, à l'équipe de la RTBF Musique 3, à commencer par Francis Willems, Emmanuel Vautier, Marion Guimette, qui ont été absolument formidables, partenariat super. Merci à toute l'équipe du Matin des Musiciens, Claire Lagarde qui a réalisé cette émission, à Laura Jachimiak qui m'a aidé à la préparer, avec aujourd'hui au mixage Dimitri Skapolan. Merci à tous. Lundi prochain, nous continuons à suivre les traces de l'archange Arcangelo Corelli. Retour à la Maison Ronde, ça va nous changer des églises baroques d'Anvers. Maison Ronde au studio 118 avec l'ensemble Stravaganza pour un matin des musiciens consacré à quelques sonates de l'opus 3 et de l'opus 4 de Corelli. Ne manquez surtout pas le rendez-vous, c'est lundi prochain à 11h. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez prolonger le plaisir et podcaster cette émission en la téléchargeant sur votre ordinateur pendant un mois. Demain, sujet passionnant traité par Arnaud Merlin dans le Matin des musiciens jazz, jazz et musique traditionnelle avec Jean-Christophe Chollet. Nous serons bien sûr à l'écoute. Passez un très bon lundi à l'écoute de France Musique. Vive la musique, vive les musiciens. Ciao, bye bye.